Bienvenue sur les balados de Décibel 514.
Ça, c'est comme la guitare inspirée, mais c'est mon truc.
Nos invités ont beaucoup de choses en commun, malgré que leur musique soit différente. Du power trio à la défense du power duo, ils cassent les codes en faisant littéralement une musique qui n'a pas d'étiquette. Et je m'imagine déjà en train d'essayer d'expliquer aux gens la musique de Death Wish and Derby ou des Bagnards. Bon alors, c'est du rock, vraiment péchu, un peu sludge mais pas trop, stoner. Mais tu sais, en fait, pas stoner comme l'autre band, mais plus comme l'autre, qui est un peu plus alternatif. C'est pas le band stoner sludge rock qui est accordé en do, le band de sludge blues punk. Une chose est sûre, je m'enfoncerai directement moi-même dans une des branches de l'arbre du métal. Sludge, stoner, alternatif, métallo-rock. Nos invités ont aussi développé une imagerie très singulière en lien avec leur band. Leurs noms sonnent communs, mais ils ont su avoir leurs identités propres. Là encore, ils ont un point commun, c'est aller vite et vous donner envie de brûler la vie par les deux bouts. Nous recevons la formation Destruction Derby et Jay du one-man band Bottleneck Jay et du band Les Bagnards. Ça va, les gars?
Ça roule!
Bonjour!
Chris malade comme intro. C'était comme, c'était comme la version. Bon. C'était comme la version sur le clean. On peut-tu le refaire, ça, à disto?
Très bonne intro.
Le premier show des Destruction Derby, c'était en mars 2016 et le premier disque en décembre 2017. Et premier show de Bottleneck Jay le 23 avril 2016 et premier disque en avril 2016. Fait que vous avez commencé un petit peu au même moment, en fait.
Ouais, on avait 12 ans.
Ouais. Vous êtes des vieux bands. Vous faites partie de des vieux musiciens.
Bientôt 10 ans.
Ouais, bientôt 10 ans. Et donc, c'est ça que je disais, vos deux bands ont commencé pas mal au même moment. Avant ces projets-là, c'était quoi vos bands d'adolescents, genre de...
Ben ouais, ça, moi, ça fait 15 ans que je suis à Montréal. Fait qu'avant ça, ça se passait plus dans le coin de Québec. Puis j'avais un cover band qui s'appelait Les Portes, en fait. On faisait des covers des Stooges, les Doors, okay. Sabbath et compagnie. Puis j'ai aussi un projet comme solo quand j'étais plus jeune. Là. Mais c'était vraiment jouer de la musique plus pour les projets de skate, en fait. Je faisais des films de skate.
OK.
Fait que je faisais mes propres tracks pour les intros.
On des parlait vidéos. En off, là, des CKY et ouais. Tout. Là,
qui... Ouais, ben ça a été une influence assez importante quand j'étais jeune. Mais okay. Ouais, on faisait des trucs similaires. On appelait ça... Le premier film s'appelait Cuir le film. C'était Ramones, Influence Ramones, Black Sabbath et compagnie. Puis j'avais fait de la tune d'intro. Fait que je m'étais déjà équipé un petit studio à cette époque-là chez mes parents quand je faisais aux études.
Okay.
Puis ben, quand j'ai déménagé à Montréal, ben ça continue en fait. J'ai juste continué à jouer de la musique avec d'autres amis. Puis même des amis de Québec à l'époque qui étaient rendus à Montréal. Okay. C'est parti avec les Bagnards.
OK, gros. Ouais, bah oui.
Je faisais pas la route pour jamais, là.
C'est pas la route. J'ai un band qui s'appelle Grip Tape en ce moment avec des gars de Québec. C'est super dur de pratiquer, fait que ça se passe pas vraiment. Jamais une fois par an.
Crème, je savais pas que t'étais de Québec. Moi, je suis de Québec.
Lui, il connaît ça, c'est fou.
Oui, j'ai joué dans le début des années 2000. J'avais un band avec des potes là-bas. Ça s'appelait Fast Forward. Puis on a joué dans les maisons des jeunes. On avait 18, 19 ans, 20 ans. On a fait les Exo-Fest 1 et 2. Avec l'apparition de l'Anti à Québec, qui était le skatepark dans la côte. Puis, non, c'est ça, on a sorti deux EP. Dans le fond, c'est ça, Fast Forward Demo, puis après ça, c'était Space Rock Session. Des choses qu'on peut malheureusement pas trouver sur le net. C'est un peu enfoui.
C'était ma question suivante, tu sais.
Tout ça existe.
Vieux projet-là.
Ouais.
Est-ce que c'est sur Internet, sur Bandcamp, c'était sur MySpace au moment?
Oui, ben nous, MySpace, on avait MySpace à l'époque, oui.
Ben oui, moi, les films de skate sont sur YouTube.
Cool.
Ça s'appelait Rare Film, en fait, la production.
OK.
Quatre films. Puis c'était avec mon chumé Laurent Nicolas Paquin. Du gros stock. Mais cool. Si j'ai l'air jeune, man, ça n'a aucun rapport. Je me regarde, je suis comme « Damn, man, c'est quoi qu'est-ce que je portais là? »
Moi, j'en ai bien des affaires d'archives de plus jeune, puis c'est correct de pas tout le temps les écouter. Là. Une fois, genre 2-3 ans, là, ben, mettons, durant la COVID, j'ai eu le temps, là, puis j'ai fait bon, je suis bon pour. J'ai pas besoin de réécouter ça avant un autre bout. Là. Genre, moi, pas de moustache, là, qui parle avec une petite voix aiguë. Là.
Est-ce que c'était des choses qui étaient filmées, genre avec des caméras DV ou des affaires de même?
Ouais, ouais.
C'est est-ce que t'as numérisé tout ça? Ou...
Oh boy. Il y en a une partie qui a été numérisée, puis ça a à peu près la même valeur que ce qui est resté sur le tape. Là.
Ouais.
Mais c'est correct, c'est des beaux souvenirs. Puis sinon, moi, le band que j'avais avant, j'avais un duo encore avec un chum du Saguenay qui s'appelle Félix Simard, que j'ai mieux connu par après. Ça s'appelait 44. Puis c'était un peu genre. Je sais pas, j'appellerais ça comme. Garage pop, mettons, ou genre.
Oh, vous avez des influences blues, vous avez des influences.
Ouais, Félix trippait sur Jack White, ben red. Puis ça, c'était. Moi, je m'en rendais pas compte parce que je connaissais pas ça. Mais tout le monde était genre, hey, c'est ça, ça vibe. Fait que, ouais, ça, c'était.
C'était moins violent que Death to Chandelier.
Non, 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 c'était quand même relax. Puis j'étais comme. Okay. J'étais un drummer moins mature.
Quand même relax.
C'est drôle parce que tous les drummers qui ont appris à jouer de la musique avec moi ont toutes. Je sais pas, ils ont tout transformé, c'est ça, exact. Ouais. Voilà, mais j'ai une influence un peu violente.
Mauvaise.
Sur les gens.
C'est ça. C'est ça, les parents s'appellent et sont inquiets, là. Mais en tout cas, j'avais ce duo-là qui était quand même relax. Puis j'étais un drummer plus débutant à l'époque. Fait que les affaires que je faisais étaient plus basiques. J'avais moins de vocabulaire musical.
Et j'ai fait de la musique avec deux chums, genre pendant un an. Et pendant un an, on n'a jamais rien. On a jamais rien fait
ça. Nous autres, on peut te battre. On a fait ça pendant genre 4 ans. Je sais
pas. Jamais une toune n'a été aboutie. Jamais. T'sais, c'était que du jam.
Ouais, que du jam. Ben,
bon. En même temps, le jam, c'est important.
Ben, c'est de l'exploration.
Oui. À l'inverse, il y a du monde qui ne sont pas capables de jammer.
Ouais, exact. C'est ça. C'est comme tu bâtis une identité en quelque part là-dedans. Là. Je veux dire, c'est là que le merge les influences puis le kit. Puis
les personnalités. Genre.
Ben, c'est ça, exact. Pour Destruction Derby, c'est officiellement la naissance du groupe, ça a été ça. Là,
ouais,
c'est deux parcours complètement différents, deux types d'influences complètement différents qui se rencontrent. Puis, je veux dire, on pourrait pas exister sans les jams.
Comment ça peut marcher si c'est deux influences différentes?
Ben, je pense que, dans le fond, la musique que j'écoute est un peu la synthèse de la musique que François écoute. Dans un sens où, ce que mettons, je nomme Converge. Converge, c'est une synthèse. Kurt Ballou a un jeu de guitare puis une construction musicale quand même influencée beaucoup sur toutes les bandes de trash puis tout l'historique de métal que François écoute.
Ouais, puis la logique de la construction des tunes est comme la même. C'est quand même, dans un sens, c'est quand même prévisible. Fait qu'on est capable de se deviner en jamant, mais même si on n'a pas les mêmes réflexes, je sais pas, moi je vais jouer un bout de DB puis lui serait comme non, on fait ça half time.
Tu sais, c'est des époques différentes aussi. Tu sais, dans le fond, je veux dire, autant les années 80 ont fait merger plein de choses, puis après ça, ben là, tu regardes les années 2000, ben là, c'est comme. Tous les gens des années 2000, ils ont passé par une écoute puis une étude de cette musique-là.
Par le même son, genre.
Ouais, exact. Ouais. Fait que veux pas, ça continue d'évoluer puis ça continue de vouloir rechercher des nouveaux trucs puis d'essayer de bâtir de quoi, de sortir du lot aussi. Là.
Je pense que c'est important dans un band d'avoir justement des membres avec des influences différentes. Hein. Parce que c'est le même que ça meurt. Mettons, par exemple, les Bagnards, Pat est vraiment plus fan de D-Beat, Punk puis Discharge et compagnie. Parce que moi, j'aime plus justement le. Ben, j'adore ça aussi. Puis on a comme la base d'aimer les Ramones, The Kennedys, le classic punk. Mais reste que. Moi, je suis plus stoner rock, admettons, Electric Wizard.
OK.
Grande influence quand j'étais jeune, justement, avec
ça,
Tony Iommi.
C'est psychédélique, en fait.
Exact.
Fait que
quand tu merges les deux ensemble, ça donne ce style-là qui est comme.
Justement, ce côté psychédélique, en fait, il est très présent sur les Bagnards, sur chaque projet. Genre.
Sur mes projets en général, je pense que c'est la manière que je joue de la guitare.
Sur les premiers projets, moins sur les. Moins sur
Facture, le dernier, il est plus straight to the point.
Genre, si on jam ensemble, j'apporte ma pédale de dealing.
Ouais, fuzz. Moi, je suis pédale de fuzz. Ouais.
Ça, c'était tu inclus, là.
Pédale de fuzz, scotché avec Wawa. La Wawa Vox, pédale de fuzz, puis delay, quand
c'est ça, je m'en viens pas jouer sur le pick-up du neck chez vous, là.
Non.
Puis les Bagnards, c'est un groupe qui a commencé avant Hotel Neck J.
Ouais, 2013.
Ouais, c'est ça. Et en fait, à la base, c'était un duo, tout comme Death to Chandelier.
Yes.
Et c'est à partir de l'album 3 qu'il y a eu Joe.
Exact.
Qu'est-ce qui a passé du power duo au power trio?
Ben, c'est passé plusieurs choses. En fait, ce que les Bagnards ont commencé, on avait des shows surtout dans les skateparks. Puis ça, c'était super le fun, mais Québec et Montréal. Puis, moi, je venais d'arriver à Montréal, en fait. Puis j'avais déjà monté 8 tunes, fait qu'on avait un set à présenter. Mais ça a tout le temps été. Ça a été comme 2 ans, mettons 2013, 2014, 2015, actifs. 2016, vraiment plus dur. Raison personnelle, côté. En tout cas, des deux côtés, si on veut. Fait que moi, je me retrouvais avec le local. J'avais du matériel là. Fait que j'allais quand même, tu sais, faire des trucs. C'est pour ça que je me suis comme... je me suis monté... Je continuais à jammer. Fait que je me suis monté des tunes en solo. En plus, j'ai découvert, là, j'avais un petit bass drum jazz 16 pouces. Là, j'ai mis le snare. Là, j'étais comme, ah, je vais y aller one man band. Tu sais, j'avais vu Bob Lug puis une coupe de genre Bloodshot Bill, mettons.
Ouais.
Puis là, c'est ça, j'ai monté une coupe de tunes en solo de même. Puis j'ai eu genre l'offre d'aller faire quand même des bonnes gigs là, avec mon oncle Serge puis Adamus et compagnie.
Récemment, t'avais un petit bass drum, tu m'as fait une carrière.
Exact. Avec le petit bass drum, encore le même qui existe encore. Mais ouais, mine de rien, ça a été ça pour vrai. J'ai fait un album enregistré ultra DIY avec seulement deux micros, presque tout live, qui s'appelle Rich Cactus Man. Puis ça m'a amené à faire plein de bonnes gigs en solo. Fait que les bangers étaient un peu sur pause dans ce temps-là, mais anyway, ça marchait plus, mon drummer. Fait que ouais, c'est ça. Mais
c'était
là,
pas après... grave, t'étais en train de faire plein d'argent. C'est ça.
Exact. Mais je
on s'en va tantôt,
reste,
les gars.
Let's go. Mais anyway, ouais, c'est... fait que ça a fait ça. Mais là, mine de rien, tu sais, je veux dire, c'est le fun de jouer en solo, mais il y a quand même l'aspect de band qui manque un peu à ce projet-là. Fait que c'est pour ça que les bangers, ben, on a tout le temps continué. Après ça, là, j'étais comme Pat, hein, tu sais, on va continuer, mais... On va amener un bassiste, on va être trois, fait que ça va faire une chimie différente que juste être les deux.
OK.
Parce que, en fait, mon drummer, tu sais, c'est un ami de, depuis que j'ai 13 ans. Là. C'est un ami de Québec. Fait que, dans le fond, après genre 15 ans d'amitié, tu commences tout le temps à te pogner, peu importe la raison. Ouais. Fait que l'affaire d'avoir un troisième membre au band, ça l'a aidé.
Ça a mieux tempéré.
Ça a mieux tempéré, ouais. Ça nous a amené à créer différemment puis à écrire de nouvelles tunes. Puis là, après ça, on a fait Fracture. Ça fait 2 ans peut-être de ça.
Mais je comprends le feeling, par exemple, parce que nous autres, avec, on jammait avec des bassistes au début, tu sais. Quand on a commencé à jouer de la musique ensemble, c'était juste pour le fun. On faisait de l'improvisation, tu sais, genre, on va chiller au local, puis on boit des bières, puis on...
Vous étiez deux, hein?
Ouais. On était deux, mais on était, tu sais, on a souvent été trois, tu sais, soit si on si on invitait...
Qui, le troisième?
Ben, il y en a eu plein, là, tu sais, il y a plein de monde qu'on a invité qui sont venus une fois ou deux, puis genre, qui ont lâché.
Okay. Ça, c'est important.
On a eu un gars pendant un bout, puis soit... Maintenant, ça allait un peu nulle part, mais c'était correct. On a quand même fait des tunes pendant cette période-là. Ouais. Puis pour rappeler ce qu'on disait tantôt, parlant de styles différents, là, mettons d'arriver avec deux bagages musicaux vraiment ben, pas opposés, là, parce que c'était encore de la guitare avec de la disto. Là. Oui. On n'était pas, j'arrive pas là pour jouer de la musique indienne. Je sais pas. Ouais. Là. Le fait d'improviser ensemble puis de jammer, ça nous permet d'explorer en dedans des limites puis des capacités de chacun pour dire OK, ça, j'ai le goût de jouer ça. Premièrement, mettons ce que tu joues, ça t'intéresse, puis t'es capable de le faire. Fait que là, à un moment donné, tes partenaires finissent par catcher ça à quelque part, puis là, ça devient... Tu es en train de faire la... De taper la trail, si tu veux, de genre, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme élément pour faire des tunes qu'on va être capable de faire, t'sais, qu'on va être capable de faire en show, puis qu'on va trouver bonne, tu sais, qui va nous intéresser de jouer, tu sais. Mettons, t'arrives dans des projets, des fois, mettons, il y a beaucoup de tentatives que j'ai eues comme avant qu'on joue ensemble, que, mettons, c'était les tunes de quelqu'un d'autre, ou pire encore, mettons, les miennes. Puis là, j'arrive pour montrer ça à quelqu'un, puis moi, j'ai une idée vraiment précise de ce que je veux. Puis là, ben tu te butes à un obstacle. La personne à qui tu veux monter ça, elle n'a pas le même vocabulaire que toi. Puis comme, coudonc, c'est bien de l'ouvrage, tes chansons avec 12 riffs, tu sais, c'est pas le fun, ça. Puis après deux bières, tu veux rien savoir de monter ça. Fait que, tu sais, ça peut marcher, mais c'est pas le même contexte. Tandis que quand tu laisses la place à l'expression de chacun, puis tu considères ça comme le vocabulaire qui va être disponible pour faire du matériel, ben tu t'achètes à quelque part de la longévité, là, tu es en train de faire un vrai projet, on va dire original, là, on va être capable de fonctionner avec ça peut-être pendant longtemps.
T'sais. Mais tu sais, c'est intéressant parce que dans un band, il y a souvent un socle, genre là, c'est vous deux, puis comme tu l'as dit, il y a eu souvent une troisième personne qui est venue, mais qui n'a jamais réussi à rentrer dans le duo, tu sais. Fait que qu'est-ce qui fait que votre socle est si fort? Mmh. Bon moment, bon endroit, genre?
Ouais, mais il y a du timing. Tu sais que j'ai une théorie, je sais pas si ça vaut de quoi. Là. Quand on a commencé à jouer ensemble, j'avais pas encore commencé à jouer de la bass. Puis j'avais pas développé mon écoute. Mettons, j'avais pas le réflexe d'écouter la ligne de bass, mettons, dans la musique que j'étais en train d'apprendre, mettons, quand on improvise. Tandis qu'à ce temps, c'est complètement différent. Là, j'ai une couple d'années d'expérience comme bassiste, puis je pense que je suis devenu bassiste il y a 2 ans, là, même si j'en joue depuis des siècles. Au sens de comprendre le rôle puis d'être capable d'écouter le bon registre. T'sais. Quand on a commencé à jammer ensemble, j'entendais pas ça. Puis mon repère, c'était la guitare. Fait que ce que j'écoutais, ce qui était facile pour moi, mettons, d'un point de vue de mémoire mélodique, puis d'être capable de catcher un riff rapidement, puis de réagir au drum avec de quoi, tu sais, avec une phrase, ben c'était vraiment en écoutant la guitare, puis c'était facile pour moi d'improviser avec Jimmy, mettons, parce que lui arrive, fait que, je sais pas, il me fait une phrase, que ce soit compliqué ou pas, ben j'entendais ça, puis j'étais capable de réagir immédiatement, fait qu'on était capable de faire de la musique vite, puis ça, j'étais comme bien là. Tandis qu'aujourd'hui, si on avait un bassiste, je pense que je serais capable de comprendre, puis j'arriverais à faire de quoi de différent, puis de bon. Okay. Mais à l'époque, quand on avait des bassistes qui venaient jouer avec nous autres, on dirait qu'il fallait que la partie qu'il allait jouer, il fallait que ce soit calqué sur la guitare, il fallait que ce soit identique. Moi, je vais donner un props à Jimmy là-dessus. Pour là, Faster, props, mais Jimmy. Ça a été compliqué quand même. Ça a été un apprentissage. Puis c'est drôle, genre, mon frère a un duo aussi, puis lui a passé par la même trail. À cette heure qu'on est capable de le faire correctement,
sans que la technologie vienne dans tes jambes.
Ouais, exact.
T'es un peu.
Il y a plusieurs paramètres. Il y a le facteur humain, puis après ça, j'ai la foot switch de ta TC qui marche jamais.
Exact.
Ça, c'est une autre affaire. Mais comme. Tu sais, quand on a commencé à nailer ça en show puis être capable de le faire comme du monde.
Ben, ça devient un skill impressionnant.
C'est vrai, il y a l'aspect impressionnant.
C'est devenu de quoi que le monde a remarqué.
C'est devenu une performance.
Là, tu vas-tu avoir le loop, c'est comme écouter genre facteur de risque. Puis là, genre, il saute sur le looper, puis t'es comme, ah, waouh, OK, là, ça déborde.
C'est pas si facile à faire.
Non, pas en tout.
Non. Live. Justement, quand ça va vite, tu sais. Mais encore une fois, tu sais, c'est le genre d'affaire, quand on l'a comme du monde, c'est cool à jouer, mettons. Personnellement, moi, j'aime ça, mettons, quand j'arrive en show, on passe des bouts avec des loops. C'est un peu comme la job ingrate, parce que là, tu sais que t'es comme, OK, si je déroge un peu du rythme ou si je le perds, mais là. Le loop continue en avant, puis ça fait un style drummer et off. Ben, ça tombe sur toi, mais c'est hot d'être capable de mener ça jusqu'au bout.
Tu sais, quand tu le nails, là, satisfaction, mon gars, est forte.
C'est comme Chris Alesco l'autre fois, c'est comme « sick ».
Mais tu sais, j'ai l'impression, puis vous allez me dire si je me trompe, mais Destruction Derby, il y a deux projets.
Tu parles des albums, là.
Ouais, plus, pas réfléchi, mais tu sais que le deuxième est comme plus spontané. Alors que le premier, il y a tout un travail d'ambiance et tout, tu sais.
Ouais, ben tu sais, c'était la première fois qu'on sortait quelque
chose. Alors que le deuxième, hein, Top Speed, est comme plus straight to the point.
Je te dirais que c'est bien à l'image du processus, parce que le deuxième, Jimmy est arrivé avec beaucoup de musique lui-même de son bass, qui était comme pas vraiment arrivé la première fois. Puis je me rappelle que l'enregistrement, ça a été quand même rapide, tu sais. Mettons, moi, je pense j'ai fait le drum puis la guitare, je pense qu'on a fait ça en une journée.
On a fait un mois.
Sérieux?
C'était live. On a fait une shot live, les tunes
jouer les tunes 2-3 fois chaque, puis c'était fini, là.
Ouais. Après ça, on a fait des overdubs. Moi, j'ai booké une session juste pour faire les solos puis la voix.
Parce que les paroles des chansons du dernier album est vraiment à l'image de la musique. Genre, genre on va tout droit.
Je pense qu'on savait davantage qu'est-ce qu'on était. Aussi,
ouais, ben tu sais, on se découvrait dans le sens. Peu, ouais, c'est ça, exact. Tu sais, dans le fond, je veux pas aussi. Moi, je peaufinais ma façon d'écrire. Là, fait que je pense que ça. C'est ça, c'est le résultat du travail, dans le fond. Là, puis le concept aussi, là, je veux dire, Top Speed, c'était comme le comme tu dis, là, c'était comme straight to the point. Puis
c'est très différent du premier album.
On l'a fait beaucoup en termes de temps, le temps que ça a pris pour l'élaborer.
OK.
Dans le fond, mettons, court, là, cet album-là, c'est une piste de drag, puis le premier album, c'est du rallye.
Ouais. Mettons. Ouais,
mais tu sais, il y a plus de travail sur la texture dans le premier. Tu sais, il est un petit peu plus ésotérique. Genre,
sur le premier, il y a beaucoup de musique qui est. Tu sais, on a eu beaucoup plus de temps pour le faire.
Si
j'étais
ponctuel,
on ferait rien.
Parce que tu sais, ça fait, je pense, depuis un an que je vous demande à chaque fois c'est quoi la suite de Top Speed. Puis on dirait que vous n'êtes pas rendu encore à comme.
Ouais, ben il s'est passé beaucoup de choses. Là. Ouais. En tout cas, mettons, moi. Personnellement, côté personnel, il s'est passé beaucoup de choses dans tes post-pandémiques, le kit.
C'est une pandémie qui a duré 10 ans.
Non, mais je veux dire, pour vrai, je sais pas. Je me mets de la pression avec ça et j'essaye de ne pas
pousser.
Ça, c'est standard. Mais,
moi, je suis le journaliste con.
Je fais de la psychanalyse, puis ça va bien, puis je travaille là-dessus.
T'as l'air de bien aller.
C'est-tu parce qu'on est assis dans des divans? Là, comme...
Ouais.
Mais... C'est ça, c'est un travail, puis c'est un mood, là, tu sais, je veux dire, tu y vas avec tes feelings, puis comme je dis, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières années de mon côté, fait que j'ai pas été capable, mettons, de...
Ouais, ben, same aussi, là, je veux dire, on a chacun notre lot d'affaires, même comme ouais. juste pré-COVID, 2019, c'était une année rough quand même. Ouais. Tu sais, tu parlais tantôt, toi, avec les bagnards, t'as eu des affaires de même, là. Il y a une année que moi, j'ai carrément pris off, là, tu sais, on a pratiquement pas jamais pendant un an.
Puis ça sérieux?
Ça peut faire que... Mettons, d'abandonner le projet, ça a jamais été une option que j'ai considérée. Mais durant cette période-là, j'avais besoin d'un break, parce qu'on venait juste de faire Top Speed.
Puis on s'est fait couper l'herbe sur le pied.
Ben, tu sais, ça, c'est arrivé par après.
On a sorti Top Speed, puis on a fait comme... C'est ça, tu sais, on a sorti Top Speed, on a fait trois shows, puis là, c'était fini.
Ouais, on a fait une petite run. C'était ça. Puis l'affaire aussi, c'est que le build-up vers cet album-là, c'était quand même busy. Tu sais, Elise nous a aidé beaucoup pour le booking à l'époque. Puis on a fait... Tu sais, il y a une année qu'on a fait énormément de shows, puis genre... Ça, plus, tu sais, comme tout le reste de la vie, je veux dire. Ouais. Moi, j'ai un deuxième band aussi, puis genre... Maintenant, les... Ajoute à ça des gigs de technique, puis genre les jobs. Puis...
Mais moi aussi, ça m'est arrivé avec vitesse. Là. Mon troisième album en bottleneck, je l'ai fait en 2019, juste avant le COVID. Puis je l'ai enregistré en studio au Pantoum à Québec ça, avec Guillaume Chiasson. C'est comme l'album que je mettais la plus grosse prod dessus.
Shout-out le Pantoum.
Puis, shout-out le Pantoum.
Belle personne.
Ouais. James, un de mes amis, ouais. Parce que tu sais, je viens de là-bas, fait que c'est un de mes amis.
Moi, j'ai dormi là-bas.
Avec qui j'ai commencé à jouer de la musique, en fait, Jean-Michel. Là.
Ouais.
Mais bref, mettre du temps là-dessus, produire un album, quand même... C'est ça, un peu plus élaboré de mes autres. Le moins DIY, si on veut. COVID, shutdown, aucun show. Ben, j'ai fait genre deux shows.
Ouais.
Puis durant deux ans, c'était quand même dead. Là. Mais tu sais, vois-tu, à l'inverse, je connais du monde que durant le COVID, ça leur a permis de prendre un break de leur job, de penser à leur projet, puis vraiment mettre all-in dans un nouveau projet.
Ah ouais. Flyer du premier album de Destruction Derby, puis pour les trois premiers albums des Bagnards, il y avait ce truc un petit peu ésotérique. Qu'est-ce qui a fait que Fracture, en fait, il est allé vraiment dans une toute autre direction, genre plus. Tu sais, genre pas plus propre, tu vois, mais.
Ouais, je comprends ce que tu veux
dire. Kind of, là.
Ben, probablement, les trois, c'est moi qui les ai. Les trois premiers, c'est moi qui les ai enregistrés.
Ok.
C'est moi qui les ai mixés, enregistrés. Et. En fait. Surtout le 2-3, là, le premier, j'étais en studio, là, mais ouais, 2-3, c'est ça. J'ai enregistré, puis c'est sûr que on voulait qu'il y ait un aspect un peu plus, justement, plus stoner, justement, mélodique stoner. Aspect, parce qu'il y a vraiment un mélange comme classique skatepunk dessus, puis des tunes vraiment plus slow, avec des longs solos.
Exact.
Le troisième, on l'a composé, que ça soit pur skatepunk, ça donne le goût de skater, la vitesse. Puis on l'a enregistré aussi avec un gars qui était très très dans ce mood-là. On l'a enregistré avec Germ.
La vitesse, c'est bien. C'est bien.
Ben oui, top speed. Top speed, moi j'ai un album qui s'appelle Vitesse aussi. Parce que lui, on l'a appelé Fracture parce que vois-tu, on l'a sorti durant le COVID.
Ok.
Puis c'était un peu. C'est un sens global, là, mais genre, il y avait la fracture de comme avant COVID, après COVID. Puis aussi, on est tout fracturé à cause du skateboard.
Okay.
Mal partout. Fait que c'était un peu cet aspect-là.
C'était soit fracture ou c'était blessure. Hein?
Exact.
Ah ben, hospital bed.
Mais il y a comme une fracture dans la prod aussi, tu vois.
Ouais, une fracture dans la prod. J'avoue qu'il est direct straight to the point. Puis lui qu'on travaille en ce moment, là, ça va être aussi ce même style-là. On a décidé d'y aller classique skatepunk. Mettons, mon drummer, il veut plus que ça soit jam, il veut exactement ça tout le temps pareil. Tandis que moi, j'aime ça allonger les tunes, j'aime ça plus être mode justement impro, plus jam. Là. Mais ouais, niveau voix, vocal, c'est sûr, c'est pas un. Ben, je chante en français, premièrement. Fait que il y a un défi à écrire en français. Tous mes albums, mes deux projets sont en français, à part quelques tunes en anglais, là, mais majoritairement en français. Puis. T'sais, c'est pas justement c'est pas des espèces de longs textes de plus genre 25 couplets là. C'est en général c'est plutôt plus Ramon style genre deux
puis
couplets
c'est bien blendé à la musique tu sais
ben j'essaie c'est un défi là pour vrai ça reste encore l'écriture c'est quand même un aspect assez pas si facile que ça pour écrire. Moi, les mélodies me viennent vraiment plus facilement à la guitare que genre mélodie de voix. Genre, avant tout, c'est souvent le riff à guitare. Puis après ça, je vais composer des paroles dessus.
Puis c'est un défi pareil de faire de quoi qui est nice en français.
Ouais, vrai, 100%.
Sur le premier Destruction, il y avait des textes en anglais, Jimmy. Hein?
Il y a une toune en anglais par album.
Ben ouais, une toune par
album. Superbe.
J'étais mieux de le savoir si j'avais dit deux. Là,
ouais, non, je pense que c'est une. Ben moi,
c'est un clin d'œil, un petit clin d'œil.
OK. Ouais,
on a le doigt. Mais en même temps, c'est quand même un défi. Genre, je parlais de ça hier genre, avec des chums. Mais genre, moi, c'est arrivé quand même tard dans ma vie, mettons, l'intérêt de faire de quoi en français. T'sais.
OK.
Puis j'ai grandi sur la musique américaine. Puis en plus, c'est drôle. Ironiquement, mettons, je viens du Saguenay, mais toutes les bandes de mon temps, on va dire quand on était jeune, on faisait toutes des tunes en anglais. T'sais. C'était comme, on se posait même pas la question. Genre, les bandes qui faisaient des affaires francophones, c'était quand même rare. Puis c'était plus des artistes en chanson que j'ai découvert plus tard. Tu sais, j'ai pas les Fred Fortin de ce monde, puis tout. Là.
Ouais, exact. Ouais.
Puis j'ai peut-être compris de quoi avec Gros Money, justement, à un moment donné. J'ai dit, ah, OK, justement, mon ancien partner Félix m'avait initié à ça. Puis il était genre, non. Ouais,
très là, original, Gros Money.
Il était comme Chris Allume, man. Il y en a des affaires. Il y en a des affaires intéressantes, tu sais, en québécois, tu sais, je veux dire, en joual quasiment.
En même temps, il faut, tu sais, on est ici à Montréal, au Québec, ouais, on parle en français.
Avant, je ne catchais pas, puis maintenant, je suis complètement viré. Mais moi aussi, c'est un peu ça. J'ai vraiment envie de faire des choses en français.
T'sais. Jamais, admettons, quand j'avais 15 ans, tu sais, je pensais pas que j'allais écrire en français. Là. Pour vrai, tu sais, j'écoutais de la musique pas mal toute anglophone, puis c'était pas une option, mais c'était pas une influence. La musique francophone, c'était pas une grande influence quand j'étais jeune. Sauf que c'est arrivé plus tard, comme tu dis.
Je sais pas si c'est une affaire de génération. Je suis pas historien de la musique, là, mais genre, je regarde, mettons, des bands marquants du Québec. Je pense à Groovy Aardvark, là, avec Vincent Pique et compagnie. Ben, genre, ça a pris quand même un certain temps avant qu'ils fassent des affaires en français. T'sais. Mettons, leurs premiers albums, puis même leur premier démo, là, One Fine Day, tout ça, c'est tout en anglais, c'est tout du hardcore. Comme, ils imitent un peu les affaires qu'ils aiment. Puis avant qu'ils fassent des choses en français, ça prend une couple d'albums, ça prend plusieurs années avant qu'ils fassent ça. Maintenant, puis les affaires les plus mémorables pour moi, c'est les tunes en français.
Ah, clairement.
Il y a un super livre qui s'appelle L'évolution du métal québécois.
Le livre à Félix Desfossés, ouais.
C'est ça. Ben, tous les bands qui étaient ou à Montréal ou même jusqu'en région dans les années 80, ben, fin 70-80, c'était tout en anglais.
Félix, tu es journaliste spécialisé en histoire de la musique souterraine québécoise et tu as écrit le livre L'évolution du métal québécois.
Absolument.
No Speed Limit. 1964-1989, dans lequel on retrouve d'ailleurs Paul et Michel. Michel, entre autres, qui a dessiné la couverture et quelques pochettes de Voivode aussi. Pour les non-initiés, Félix, la musique métal, c'est des poilus qui hurlent à tue-tête des textes ténébreux enterrés par le son de la batterie et d'une guitare assourdissante. Est-ce que tu vas déboulonner ce préjugé ce soir ou tu vas dire que finalement, c'est ça?
Ben, finalement, c'est un peu ça.
Ben oui, ben justement, tu sais, même... Ouais. On décollera pas trop loin là-dessus.
Encore aujourd'hui, je pense. La majorité, c'est en anglais, on s'entend.
Là. Ce livre-là, il est incroyable. Hein?
Ouais, mais comme...
Il y avait des bands trash metal québécois incroyables.
On va appeler les... Pas pour les vieillir, mais tous les vétérans. Mettons,
oui,
genre,
ben oui.
Mettons que quand moi, j'étais genre début vingtaine, les gars qui étaient genre, je sais pas, là, 45, 50 ans et plus, qui avaient eu des bands quand il y avait... cet âge-là, dans les années 80, c'était tout de l'anglophone.
Exact.
Parce que la mentalité, c'était comme, ben, tu peux pas faire ça dans le circuit au Québec, fait que nous autres, on essaie de plaire ailleurs. Pourquoi je travaillerais au Québec quand tout ce que j'écoute est en anglais? T'sais?
Mais tu sais, moi, j'ai été marqué par des bands comme le Kraken. Je suis arrivé à Montréal, j'ai découvert ce band-là qui était un espèce de doom, tu sais, genre doom, mais comme post-metal, post-hardcore, c'était en français. Ouais. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est dommage intéressant, man. Ça marche. C'est
bonne influence. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, sur Jean Leloup, c'était que j'étais comme, what the fuck, qui se passe avec ce gars-là? Ça m'a tout le temps comme vraiment intrigué de la manière qu'il écrivait.
Puis, en plus, tu l'as rencontré en vrai.
Quand j'ai travaillé avec lui, quand j'étais arrivé à Montréal. Puis même, il m'a donné des conseils et des trucs. Ouais. Là, puis, en tout cas, tu le vois comment lui il vit sa musique. Là, c'est comme, c'est pas. C'est lui, c'est sa musique. C'est,
ouais, tout, exact. Ouais.
C'est sa manière de vivre. Ses textes, c'est comme, c'est sa manière de vivre, c'est lui. Là, fait que, c'est sûr que ouais, ça m'a inspiré. Mais c'est venu naturellement d'écrire en français. En vrai, là, tu sais.
Est-ce que c'est plus facile dans Bottleneck, Jay, que dans Les Bagnards ou non?
Je veux dire, c'est. Non, c'est les deux le même processus. Okay. Il n'y a pas plus facile
l'un que l'autre, genre.
Ouais,
ouais, Manny, quand t'aimes ça, c'est un peu comme je disais tantôt en parlant de vocabulaire et d'impro, mettons, là, quand on établit le contexte de mettons, nos limites, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est comme, maintenant, si ça te plaît, puis tu trouves que tu sonnes bien, ben que ça sonne bien, tu sais, que tu as envie de faire ça, tu vas pas essayer de...
Je trouve ce qui est dur en français, c'est que c'est facile que ça sonne comme kitsch un peu, là, comme
cheesy, là.
Genre cheesy, ouais. Exact, parce que, tu sais, quand t'écoutes des textes en anglais, mettons, il y a des textes qui sonnent super bien en anglais, mais que si tu le répètes en français, t'es comme OK.
Ouais,
OK.
Ouais. Il y a ça, mais je pense que nous autres, on le voit à la loupe parce qu'on le voit de l'intérieur.
Oui, oui,
on
c'est
est
sûr,
là.
C'est sûr.
T'sais, on écoute des affaires en anglais, il y a plein de références culturelles qu'on n'a pas. Puis moi, je m'en rends compte quand je vais jouer, mettons, avec Luger, genre mettons en Ontario, on y va souvent, là, comme là-bas, la trail est comme déjà tapée, le monde aime déjà ce style-là, puis il y a plein de bandes similaires aux nôtres qui ont déjà comme. Qui ont comme déjà mis la table, si tu veux. Ouais. Fait qu'on est accueillis comme genre, ah, parfait, c'est un son qu'on connaît, tout le monde, ouais. C'est comme déjà réglé, on n'a même pas besoin de faire d'efforts, le monde trouve ça bon.
On t'est rencontré.
Mais tu te rends compte, moi, je perçois ça comme. C'est tellement comme. On fit là-dedans, mais c'est comme full standard, eux autres, c'est genre, ah, ben parfait, ça sonne de même, super, on connaît ça, super bon, let's go. Mais tu sais, ouais. Je regarde ça, puis je me dis, ben, crime, nous, quand on fait des affaires en français ici, là, c'est sûr qu'on se scrute davantage, puis on est bien plus self-conscious de ce qu'on fait.
Du mais, sens des paroles.
Mettons que tu dis sonner kitsch, il y a quand même des bands que j'ai découvert puis que j'ai comme appris à aimer qui sonnent kitsch. Mettons, moi, j'aurais jamais écrit ce qu'ils ont écrit, mais quand tu l'écoutes après dans son contexte, je suis genre.
Ah, ça marche super bien, exact, puis tu te poses pas.
Je suis quasiment rendu au stade de le faire. Là, comme...
Toi qui écris, Jimmy, comment tu vois ça?
Eh, hey, boy, moi, ben. Moi, pour moi, The Suction Derby, c'est clair que ça a tout le temps. C'était un défi, dans le fond, de vouloir le faire en français. Parce que...
C'est la première fois que tu as écrit des textes
exact,
en français pour un projet.
Ben, tu sais, j'ai tout le temps écrit pour moi, mais tu sais, dans le fond, je veux dire, chanter du français, puis le kit, c'était pas nécessairement de quoi qui était naturel pour moi non plus. Puis, tu sais, avec le langage qu'il y a dans The Suction Derby, c'est sûr que pour moi, c'était plus facile d'utiliser ces choses-là, là, tu sais, dans le fond, pour m'exprimer, mettons.
Ouais.
Puis, mais je sais pas, tu sais, j'ai tout le temps aimé les. Tu sais, Marmotte aplatie, pour moi, ça a été comme.
Ah oui.
Non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire, ça a été une influence. Puis là, je me suis dit, OK, non, faut faire ça, tu sais, faut qu'on le prenne.
Pour détruire,
que...
même.
Ben, tu sais, regarde, c'est simple, mais c'est ça, tu sais, c'est vitesse détruire, c'est ça, exact.
Je dire, on voit l'influence.
C'est ça, exact. Puis, ils ont fait leur. Puis, encore aujourd'hui,
écoute leur tune encore aujourd'hui, puis t'es comme, man, ça rentre.
Ben oui, exact.
Quel nom de band, par exemple, les Marmottes à
Pâtis. Ouais, exact.
Tu vois, ça, c'est le genre d'affaire que quand j'avais pas switché au français encore, là, ouais. C'est des bands que je voyais passer ces noms-là, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça?
C'est vrai.
Aucun intérêt, tu sais. Je regardais ça tellement de loin, j'étais comme, tu sais quoi qui se passe, tu sais. J'avais même pas conscience qu'il y avait une scène au Québec qui était comme, qui avait déjà de quoi à dire, puis depuis longtemps, quelque part, Chris Plume, Offenbach.
Ah
exact,
ouais.
Exact, c'est ça.
Le Offenbach, c'est incroyable.
J'ai commencé
incroyable.
À comprendre. Ah ouais. Le plus que je creusais, j'étais comme, aïe, là, le monde se sont posé cette question-là, ben avant que je sois né.
Tu sais, il y a un band, québécois, moi, qui m'a traumatisé, c'est autre chose.
Avec une musique de malade. Je sais pas où je m'en vais. Ça me dérange pas plus que ça. Destination danger.
Avec Lucien Francoeur, ce truc de pas chanter, pas rapper, juste parler, raconter des histoires sur une musique un petit peu genre à la Rush.
Je me souviens plus de son nom, mais j'avais
fuck,
parlé.
C'est quoi ce truc?
Tu sais, quand ils se sont reformés, ça fait déjà un bout, là, ouais. J'étais allé voir genre au jazz, comme je sais pas, peut-être aucune idée, même 2014-15 peut-être, là, genre quand ils ont recommencé à faire des shows, c'était genre justement Vincent Pic à base, puis. Michel Langevin au drum, genre, il y avait comme toute une formation avec des
man, c'est fou ce band-là.
C'était comme un super groupe. Ouais, de
Michel Francoeur aussi.
C'était genre l'élite de l'underground au Québec.
Ouais.
Puis j'avais jasé avec son guitariste, je me souviens plus de son nom, c'est bête, mais c'était comme le guitariste original du band. Puis on s'est mis à parler de n'importe quoi. T'sais. Puis il me dit, moi, quand on pratiquait, Harmonium mettait en face dans le local, j'allais écouter à leur porte. Puis je faisais pas ce qu'il faisait. Je m'organisais pour l'inverse. Mais le gars était vraiment convaincu, il m'expliquait sa démarche de même, j'étais comme OK.
On s'entend que la voix dans cette band-là, c'est ça qui était particulier. Mais
la manière dont
il rappe un peu, mais oui. C'est rock. C'est comme.
Le
rappabilly. Raoul Duguay rendu là aussi. Tu sais.
Le rappabilly, même, ça
exact.
A été.
Mais je
pense
que
de Lucien
Francoeur. C'était très bien perçu. T'sais, à l'époque, je sais qu'il y avait un succès.
C'est
là,
sûr, il y en a qui
n'ont
pas compris.
Moi, il y a beaucoup de monde qui n'aimait pas ce style-là là, de plume.
Ben ouais.
Il provoquait en estime.
D'ailleurs, quand il avait reçu
le
prix.
Vieux chausson sale.
Ah ouais. Qu'est-ce quand il avait reçu le prix du gouverneur général ou de quoi, tu sais, il était comme allé fucking parlement recevoir son prix puis tout, puis son speech, j'étais comme je croyais avoir tout fait pour éviter d'être ici.
Wow. vos cultures musicales, elles sont plus anglaises ou américaines?
Américaines.
Mais je dis ça, puis dans le fond...
J'aime bien Motörhead. Là.
Ben là, OK, ouais. Ouais. Donc toi, anglaise, ouais, hein? Plus Stooge, Ramon, tout ça?
C'est 50-50, je dirais. OK. Là, parce que c'est sûr, Sabbath, j'ai beaucoup aimé du Led Zepp aussi, puis Motörhead côté anglais, mais okay. C'est sûr, j'ai tout aimé les bands punk, original punk de Kennedy's, toute la côte ouest aussi.
Ça doit être 62-38, genre.
62-38, hein?
62.25-37.75.
OK. Si on parlait de notre ville,
j'en ai.
62-38. Je pense que le titre de cette vidéo, genre, pourrait être ça.
Divisé par deux, c'est combien?
J'ai les bannières, 62-38. OK. Si on parlait de Montréal, qui est en fil rouge le personnage principal de la scène locale et de pourquoi on fait ça, là. Un souvenir mémorable d'un show que vous avez fait dans une salle ou un bar qui n'existe plus aujourd'hui, juste pour donner du love à un endroit qui a existé et qu'on a aimé.
Divan Orange. On l'a fait une fois.
On l'a fait une fois, puis c'est ça, on faisait partie de la série du Last Call.
Ah ouais?
Ça doit être la même été qu'on l'a fait ensemble. J'ai fait avec les bangs.
Ouais. C'est comme t'arrives dans un bar, t'as le temps de coller une dernière bière, puis après ça, les lumières ouvrent. C'est ouais. Comme fuck, hein, je t'arrivais tard.
OK, donc vos deux bands ont joué au
Divan Orange. Dans la série Last Call,
ouais. Magnifique.
Ouais, pas le même soir, là, mais...
Sûrement le soir d'après.
Sûrement le soir d'après, ouais. OK, super.
Mais, ouais, okay. C'est vraiment plate qu'il soit fermé, cette place-là. Ouais. Ben, mémorable, moi, nous autres, on a fait notre premier show des Bagnards au Projet 45, qui est un skatepark DIY, que ça fait 10 ans qu'on construit par nous-mêmes. C'est nous autres qui coulent les transitions, puis tout, puis c'est en arrière du Taz, en fait, ça. C'est,
OK, oui, OK.
Super beau spot, vraiment, en fait.
C'est où, ça, le Taz, puis tout,
c'est au nord de, mettons, au nord de la 40, sur Papineau.
OK.
Ça, le TAS, c'est un skatepark intérieur. Ouais. C'est un des très gros parcs au Canada.
Je suis jamais allé au nord de la 40, fait que j'aurais ouais. Pas pu savoir.
Mais en arrière, ils nous ont laissé un terrain. En 2012, ils nous ont tout donné de terrain en arrière, leur cours, en fait. Wow. Puis là, on s'est mis à construire des gros quarterpipes là. Puis là, en ce moment, il est encore là, le projet. Mais bref, on a fait, avec mon Ben les Bagnards, on a fait notre premier show sur le top d'une transition de 10 pieds. Wow. Full on, gros soleil avec le barbecue wow. En arrière, les
sérieux,
temps de fans.
Incroyable.
Puis j'ai une photo de moi, je suis comme en train de être bagné sur le top du quarter pipe quand quelqu'un fait un trick.
C'est mémorable.
Tu m'échappes ton pic, man, puis tu vas le chercher 30 pieds en bas.
en fait j'ai joué là comme 4-5 fois, puis je l'ai fait en solo une fois, puis mon défi c'était de louper ma git, pogner mon skate, faire une run, revenir et continuer, puis je l'ai fait, man.
Sérieux?
Je l'ai fait en solo. Hein.
Si Destruction Derby ou les Bagnards auraient pu être formés dans une autre ville, laquelle ce serait?
C'est pas, hein?
Moi, en Espagne, je pense. J'aime trop l'Espagne.
Ah ouais,
j'ai
hein?
J'ai allé trois fois en Espagne, surtout pour faire du skate, et jouer une fois aussi, là, mais ouais, j'ai...
OK.
Sans qu'avoir un ben ailleurs, si j'aurais pris moi en Espagne, moi je pense.
Au soleil.
Ouais, au soleil, exactement.
Vous?
Je sais pas. Genre Tenextepec au Mexique. Puis ça existe pour vrai. C'est une vraie ville.
Sérieux?
Ouais, c'est minuscule.
Incroyable.
Mexique, puis si on aurait été un band.
Genre 64 habitants, genre.
On aurait été des gens de mariachi, là.
Bonsoir.
Élise et Production de la Loba qui nous a tout le temps donné un bon coup de main. Ouais. À cette heure, qui nous aide encore une fois de temps en temps, nous soumettons une gig de même. Tu sais, hey, j'ai une proposition. Fait que là, elle nous aide encore, mais dans le temps, elle nous a aidé énormément. À une période où ce qu'on avait besoin, tu sais, tu parlais de
au début.
Tu sais, d'avoir de l'influence extérieure ou d'être un homme impair pour voter, là. Il y a une période où ce que ça a été bien utile, puis elle nous a booké des shows, elle nous a fait bouger beaucoup. C'est elle qui nous a donné comme le premier kick là, pour décoller le band. Là. Après ça, un collaborateur plus récent, avant d'aller dans le futur, du passé, puis tout, Ryan Baptiste ouais. Qui a mixé notre deuxième,
okay. Ouais.
Toujours été d'une grande aide. C'est pas lui qui a mixé le premier, mais c'est lui qui nous a qui a toléré la prouesse technique qu'on lui demandait de faire. Puis sinon, collaborateur plus récent, ben Frédéric Couture avec Astrosonic Productions. Mm. Ouais, en tout cas, t'sais, The Sons of Arrakis, là, qui s'investit énormément en booking puis qui prend beaucoup de bands sous son aile, même s'il est déjà crissement occupé avec son propre band. Fait que ça, c'est fucking cool.
Mes deux projets, j'y roule encore d'une manière très DIY par moi-même. Mm. Mais en général, c'est des rencontres comme au jour le jour. Là, je fais des rencontres, parle un peu, parle des projets, puis ça aboutit sur des gigs ou des enregistrements. Fait que merci à tous ceux qui m'ont aidé jusqu'à date. Là, récemment, justement, le dernier Bottleneck, c'est Volcanic Highway, mon album, j'ai enregistré avec Patrick. Pat, en fait, c'est un de mes collègues. Pas Patrick Hubert, mon drummer, c'est Pat, c'est un de mes collègues qui travaille chez Lender Audio, super bon audio engineer. Il y a un okay. Méga studio vraiment intéressant. Fait qu'on a fait ça avec lui. Mais mettons une anecdote, là, j'arrive, je suis allé sur le Costa Rica le mois de novembre dernier, puis qui que je vois pas arriver dans l'avion? Reg Laplanche de Musique Plus.
Oh!
Fait que là, j'étais comme, man, faut que j'y parle là, au moins. Là, fait que là, on est allé jaser. Là, vu qu'on attendait l'avion, on a bu une bière ou deux. Puis là, vois-tu, il m'a booké au Festi Rock en août, 31 août, je vais jouer au Festi Rock à Saint-Colomban. Fait que, okay. C'est en général même. De même, ça marche pour moi. Là, c'est vraiment des rencontres, je parlais du monde. Sûr, avant le COVID, j'avais une agence de production qui m'ont aidé à aller jouer en France.
Tu rencontres du monde en avion, tu sais.
Ouais, moi, c'est tout en avion. Ouais. Je me tiens proche des aéroports, man. Puis c'est là que je fais mon PR. Mais,
et ouais. Justement, je pense que tu avais une anecdote sur Musique Plus.
Ben, c'est, en fait, l'anecdote que j'ai avec Musique Plus, c'est ça. Là. C'est okay. L'anecdote avec Ridge Laplanche. Là. C'était incroyable. Quand même, je m'attendais pas à ça, puis tu vois-tu justement le fait d'avoir parlé, jasé une heure ou deux autour d'une bière, ça amène des gigs comme ça. Pis ça a tout le temps été le même jusqu'à date. Là.
Okay.
Mon ami Arnaud B.
Ouais.
Qui fait mes pochettes de Bottleneck, qui fait aussi beaucoup de design puis de graphisme pour des festivals au Québec.
Okay.
Il est très présent sur la scène, là, si tu veux, mais super travail, puis vois-tu, il me crée des bonnes pochettes pour les quatre derniers albums que j'ai faits.
Ah oui.